VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Dakar, 13h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. Au Burundi, divorce entre Bujumbura et le médiateur de l'ONU, Jamal Ben Omar. Le gouvernement burundais a demandé son remplacement, Jean-Roger Bion.
C'est dans une correspondance que Bujumbura l'a signifié à Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies. Le message est clair, plus question de continuer à traiter avec Jamal Ben Omar. Par conséquent, le gouvernement de Pierre Nkurunziza a demandé des consultations avec Ban Ki-moon et l'entrant Antonio Guterres pour désigner un successeur à M. Ben Omar comme médiateur au Burundi. Mais le porte-parole adjoint de l'ONU, Farhan Haq, a affirmé que M. Ben Omar gardait toute la confiance du secrétaire général. Il a déclaré que M. Ben Omar reste en fonction. En juin 2015, son prédécesseur, Saïd Djinit, avait jeté l'éponge sur demande de l'opposition burundaise.
En RDC, bientôt un nouveau Premier ministre issu de l'opposition. C'est pour mettre en application l'accord politique du 18 octobre sur le report de la prochaine présidentielle. Mais le rassemblement d'opposition regroupé autour d'Étienne Tshisekedi, leader de l'UDPS, a rejeté cet accord et exige le départ du président Joseph Kabila à l'expiration de son deuxième mandat le 20 décembre. Pour sa part, la CENCO, le Conseil épiscopal catholique, s'est retiré de cet accord qui viole le prescrit de la Constitution sur le mandat présidentiel. Le nouveau gouvernement va-t-il pouvoir contenir cette crise politique profonde? Éric Manirakiza a posé la question à Bruxelles au coordonnateur du mouvement Filimbi Floribert Anzou Louni.
Nous sommes vraiment assez tristes de constater que nos inquiétudes de départ sur le glissement sont malheureusement en train de se confirmer. En complicité, encore une fois, malheureusement, avec certains leaders politiques qui se présentaient comme étant de l'opposition, qui ont été simplement récupérés par la majorité présidentielle. Et aujourd'hui, donc, on arrive à une solution qui n'en est véritablement pas une, parce que le véritable problème de la crise congolaise n'a jamais été un problème technique sur l'organisation des élections, mais bien un problème lié au départ de l'actuel président à la fin de son mandat le 19 décembre. Donc ce gouvernement n'aura aucun impact ou vraiment très peu d'impact positif sur la suite de la crise. Donc très clairement, ce gouvernement ne règle absolument rien. La population congolaise, croyez-moi, est déterminée à agir pour empêcher que ce coup d'État constitutionnel soit matérialisé le 19 décembre. Je pense même que ça risque d'aggraver la situation.
Le rassemblement autour de Tshisekedi ne reconnaît pas cet accord.
Je pense que M. Tshisekedi se comporte comme la population congolaise. Le véritable débat aujourd'hui porte sur le départ du président Kabila à la fin de son mandat. Si aujourd'hui nous acceptons, et le président Tshisekedi également, que le président Kabila se maintienne au pouvoir au-delà de son mandat, clairement, nous acceptons de briser notre constitution, nous acceptons de la violer, nous acceptons de fonctionner en dehors d'une règle sur laquelle la grande majorité des Congolais s'était accordée. Si dans 6 mois, le président Kabila et sa majorité reviennent en disant « Écoutez, nous avons besoin d'un autre accord », qu'est-ce qui pourra finalement empêcher qu'un autre accord vienne se mettre en place pour que le président Kabila se maintienne définitivement au pouvoir? Donc non, je pense que la position du président Tshisekedi est même assez responsable. Il dit ceci, il dit « Aujourd'hui, on nous a mis dans une situation difficile, il n'est plus possible d'organiser les élections dans les délais. Nous sommes d'accord de discuter avec nos frères de la majorité pour trouver un cadre, une solution à cette situation que vous avez créée, vous la majorité. Mais la seule condition, c'est que la responsabilité qui incombe au président Kabila soit clairement actée et que le président Kabila quitte le pouvoir au plus tard le 19 décembre. En tant que garant de la Constitution, nous disons oui. Très bien, nous pouvons trouver un cadre pour organiser l'élection présidentielle dans le délai le plus court possible, en 2017. Mais très clairement, le président Kabila ne peut plus continuer à diriger la République démocratique du Congo pendant la période qui va précéder cette élection.
Il y a donc ce bras de fer entre la majorité et une grande partie de l'opposition et la société civile. Quelles sont les perspectives selon vous?
C'est un bras de fer entre, j'aimerais le présenter autrement, c'est un bras de fer entre la majorité de la population congolaise et une minorité de personnes autour d'un individu et qui sont surtout en train de tromper cet individu et de lui donner l'impression que avec des petits calculs politiciens, il pourra gérer la situation, il pourra calmer la population, ce qui ne sera pas possible. Les perspectives, malheureusement, aujourd'hui, écoutez, après le passage de la mission du Conseil de sécurité, nous pensions que, peut-être, par miracle, le président Kabila allait pouvoir, justement, avoir un sursaut. Malheureusement, vous l'avez peut-être suivi, celui qui représentait, en tout cas, le diplomate anglais, a immédiatement tweeté après la rencontre qu'ils ont eue avec le président Kabila, qui leur a fait comprendre que, oui, aujourd'hui, la Constitution ne permet pas de briguer un troisième mandat, mais cette constitution peut être révisée. Donc en sortant de là, ils ont très bien compris que l'intention claire du président Kabila est de sortir du cadre constitutionnel pour pouvoir par la suite modifier la constitution. Les perspectives sont donc au jour d'aujourd'hui très mauvaises, malheureusement. Mais le plus important, c'est la population congolaise, les citoyens congolais qui restent déterminés à barrer la route en fait à cette tentative de prise de pouvoir par la force. Et nous disons qu'après le 19 décembre, le 20 décembre, le président Kabila sera considéré comme un putschiste.
Floribert Anzuluni à Bruxelles. RCA, la communauté internationale se penche de nouveau au chevet de la Centrafrique jeudi à Bruxelles pour financer le retour d'une paix fragile dans un pays exsangue qui ne figure plus parmi les priorités diplomatiques malgré sa situation stratégique au cœur du continent africain. Comme pour l'Afghanistan, la conférence des donateurs de Bruxelles doit annoncer des aides financières sur plusieurs années pour ce pays de près de 5 millions d'habitants dont la pauvreté a encore été aggravée par 4 ans de guerre civile. La Centrafrique a pu élire dans un calme relatif en début d'année un nouveau président, Faustin Archange Ouattara, parti pour Bruxelles dès dimanche dernier. Mais le président centrafricain se trouve à la tête d'un État sans armée nationale ni administration et dont une large partie du territoire se trouve sous le contrôle de groupes armés.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
À Zouéra, dans le nord de la Mauritanie, deuxième jour du procès en appel des militants anti-esclavagistes mauritaniens condamnés à des peines de prison, notamment pour usage de la violence. Un procès marqué par une sécurité renforcée, selon la défense et des témoins, Nani Talani.
D'après un des avocats de la défense, Maître Baoul Doumbarek, le procès a commencé en présence de tous les accusés que la cour a interrogés en début de séance. Puis les avocats ont soulevé des exceptions de procédure jugées suffisantes pour annuler le dossier. Ils ont insisté sur le flagrant délit pour lequel leurs clients sont jugés, qu'ils contestent, et les tortures auxquelles les prisonniers ont été soumis. La cour devrait se prononcer sur ces questions de procédure. Pendant ce temps à Paris, l'ONG l'Initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste, IRA, a déposé hier une plainte visant de hauts responsables mauritaniens accusés de torture à l'encontre de ces militants anti-esclavagistes qui sont au nombre de 13. Ces derniers sont accusés de rébellion, usage de la violence, attaque contre les pouvoirs publics, attroupement armé et appartenance à une organisation non reconnue. Ils avaient été arrêtés en juin-juillet pour leur implication présumée dans les violences à Ksar, un quartier dans le centre de Nouakchott, dont le déplacement forcé par les autorités le 29 juin avait provoqué des heurts entre des manifestants en colère et la police. Une dizaine de policiers avaient été blessés, selon les autorités. Ils sont jugés en même temps que sept habitants de ce bidonville.
Politique aux États-Unis, le président du Sénégal, Macky Sall, est le premier chef d'État africain à venir à Washington depuis la victoire du républicain Donald Trump à la présidentielle américaine. Au micro d'Idriss Fall, le leader sénégalais a confié à VOA Afrique ce qu'il pense de l'élection du milliardaire new-yorkais.
Le monde entier a suivi la campagne de M. Trump. Cela a suscité des réactions vives qui étaient compréhensibles. Mais je crois que les paroles d'un candidat ne correspondront certainement pas aux actes d'un président. Parce que le candidat, c'est quelqu'un qui est à la recherche des suffrages, qui peut essayer de plaire à l'électorat, bon, qui essaye de faire du marketing, de dire aux gens ce qu'ils veulent entendre. Parfois, peut-être que ça ne va pas être du tout les actes que le président va poser, parce que tout acte qu'il posera aura une conséquence immédiate et les réactions vont suivre immédiatement. Et aucun pays ne peut se permettre de se mettre au banc de la communauté internationale, fût-il les États-Unis d'Amérique. Attendons de voir. Donnons-lui quand même une présomption d'innocence et permettons qu'il s'installe et qu'il pose des actes avant que vraiment nous puissions nous apesantir davantage sur ce qu'il va faire ou ne va pas faire.
Le président du Sénégal, Macky Sall, à Washington. Et puis le président américain Barack Obama est arrivé ce mardi matin à Athènes, en Grèce, où il passera 2 jours avant de se rendre à Berlin, en Allemagne. Son dernier voyage officiel en Europe en tant que président des États-Unis. M. Obama doit rencontrer le président de la République grecque, Prokopis Pavlopoulos, puis le premier ministre Alexis Tsipras avant une conférence de presse avec ce dernier. Mercredi, il se rendra sur l'Acropole, puis prononcera un discours sur les défis de la mondialisation avant de rallier Berlin. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.